Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mai 2021. Nous sommes à Auray. Et si vous entendez un petit peu de souffle, eh bien c'est le vent dehors qui souffle très fort aujourd'hui. Pour ma part, je vais vous entretenir d'un beau récit que j'ai eu l'occasion de lire dans le journal Le Monde du 3 mai 2021. Et ce récit s'intitule « Dans les Cévennes, sur les traces de la femme des bois ». Cet article a été écrit par Florence Aubenas. C'est une enquête. Une enquête qui traite sur une affaire qui agite toute une vallée cévenole où des hippies s'étaient installés après 1968. Depuis presque 12 ans, une trentenaire, connue de tous, vit seule dans les montagnes ou en squattant parfois certaines maisons. Faut-il y voir uniquement un cas psychiatrique ou le stade ultime de la liberté tant recherché après 1968 ? Sur la route départementale, le sentier démarre juste dans un tournant. Là, il faut abandonner la voiture. Un muret éboulé, la rivière, trois planches mangées de mousse qui esquissent un pont et c'est déjà la forêt. On peut continuer à flanc de montagne sans remarquer, à quelques pas du chemin, une bâtisse plus grande qu'une cabane, quatre murs nus en pierre sèche qui s'accoude au rocher. Dans cette vallée des Cévennes, elle est longtemps restée à l'abandon, au milieu des châtaigniers et des genêts. En la voyant, Maude s'est enthousiasmée. Ici, elle pourrait venir s'échapper quelques jours par semaine. Elle ferait pousser des plantes aromatiques et médicinales. Ce serait un abri pour sa fille, sait-on jamais, une enfant de 8 ans. Sur son dos, elle a monté un matelas, un poêle, un baquet pour l'eau, quelques outils. La voilà au paradis. On est en 2017. Assez vite, Maude a remarqué que du feu avait été fait en son absence. Sa chaise était cassée, ses bougies presque fondues. Puis des objets ont commencé à disparaître. Cette grande cape, par exemple, qu'elle aimait tant. Un hiver, elle a découvert l'empreinte de deux pieds nus dans la neige. Pas de doute, quelqu'un visitait son petit paradis. Même quête d'apaisement. Les gardes du parc national des Cévennes ne sont pas étonnés. Maude ne savait-elle pas que la forêt était habitée ? Une jeune femme y mène une vie sauvage et solitaire depuis une dizaine d'années. De loin, un chasseur l'a suivie une fois. Il l'a hélée. Puis elle a détalé droit devant, face à la pente. Impossible de la rattraper. Avant que Maude n'achète le paradis, la visiteuse le tenait pour son domaine, une de ses cachettes dans les bois. Maude ne s'est pas inquiétée au début, loin de là. Elle a eu l'impression de comprendre la visiteuse. Au fond, elles se ressemblent, n'est-ce pas ? Même âge, 35 ans, ou à peu près, même quête d'apaisement, même amour de la nature, y compris les toutes petites bêtes. Ce serait un autre elle-même, en somme, mais plus libre, qui aurait osé s'affranchir de la société et de ses lois. Pour ne pas brusquer la visiteuse, Maude a reculé son projet de plantation, puis raccroché au nez des gendarmes en quête de renseignements. À certains dîners, on se le promet, on ne parle pas d'elle ce soir. Mais les conversations finissent toujours par l'évoquer. Chez qui elle est rentrée ? Qu'a-t-elle pris ? D'ailleurs, il y a quelques semaines, Maude a trouvé les jouets de sa fille saccagés autour de son petit paradis. Des affaires avaient été brûlées, un carnage d'après elle. La nuit, des pas sur le toit l'ont réveillée. Un piétinement interminable et fiévreux, presque menaçant, lui a semblé-t-il. Maude a attendu l'aube. Alors, face aux crêtes, dans un soleil tigré par les branches de châtaigniers, elle a hurlé. « Mais qu'est-ce que tu veux? De quoi te venges-tu ? » Quelque part, invisible, les yeux de la visiteuse l'observaient. Elle en était sûre. Ça fait longtemps que la visiteuse occupe les esprits dans ce coin perché des Cévennes. 4 villages, quelques hameaux, 1 millier d'habitants l'hiver. À certains dîners, on se le promet, entre amis, on ne parlera pas d'elle ce soir. Mais les conversations finissent toujours par l'évoquer. Qui l'a aperçue? Chez qui est-elle rentrée? Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle pris? Ailleurs, elle n'aurait sans doute pas survécu. La faim, les hivers interminables, ou plus probablement encore un coup de fusil. Mais est-on au cœur de la mythique vallée des hippies? Le surnom daté de l'après-1968, au temps de leur arrivée. La marginale des marginaux. Ici, la montagne ne plaisante pas. Elle a ses gueules. Beaucoup sont partis depuis, d'autres en revanche se sont enracinés, entrepreneurs, enseignants, paysans ou élus locaux. Un demi-siècle plus tard, ils représentent près de 50% de la population dans certains coins. Longtemps, la visiteuse est restée leur histoire, un secret prolongé. Mais ces 2 dernières années, une 40aine de plaintes ont été déposées contre elle. Elle est devenue marginale des marginaux. Dans 100 ans, elle sera une légende, raconte un gendarme. De son côté, Michèle Manoa, élue verte du département, est une des seules à accepter de parler à visage découvert. L'histoire est presque devenue un cas de conscience pour nous tous. Tout à l'heure, comme chaque jour, la mère de la visiteuse fera le tour de ces endroits cachés en appelant son nom. L'apercevra-t-elle seulement? Des mois peuvent passer sans aucun signe. Près de la rivière, la mère de la visiteuse coupe du bois dans la courette derrière chez elle. Un appartement loué par la mairie, où elle vit seule maintenant. Haute silhouette austère, cheveux gris noués, 67 ans. On la montre du doigt et elle le sait. Tout à l'heure, comme chaque jour, elle grimpera sur des sentiers connus d'elle seule et de sa fille. Elle fera le tour de ces endroits cachés en appelant son nom. L'apercevra-t-elle seulement? Des mois peuvent passer sans un signe. Dans le creux d'un arbre, elle finira par laisser des fruits secs, de la charcuterie, quelques conserves et aujourd'hui du sauté de veau que les bêtes dévoreront peut-être. Sa fille n'a jamais voulu du couteau, de la lampe frontale ou du nécessaire à couture qu'elle s'était ingéniée à lui apporter. Elle ne garde rien. Seule une chose l'avait charmée. Un livre de Charles Baudelaire, Les paradis artificiels. C'était il y a longtemps, 12 ans déjà, tout au début de sa fuite dans la forêt. Juste après, la mère avait réussi à lui voler un baiser sur la joue. Maintenant, sa fille ne se laisse pas approcher à moins de 10 mètres. Même par elle, son dernier contact avec les humains, elle ne parle presque plus. Dans les Cévennes, des Gardons, la mère est arrivée en moto dans les années 70. C'est ce dont on se souvient en tout cas. Elle circulait avec une amie, l'une n'allant pas sans l'autre, avec leur beauté, leur seule beauté pour bagage. Les photographes adoraient les faire poser, toutes les deux, très brunes, flashantes. Mais cette vallée, la plus escarpée de toutes, quelques communautés, dans plusieurs centaines de personnes, commencent alors à reconstruire des ruines, pierre à pierre, des fermes isolées, au bout des chemins vertigineux, dispersés dans les replis de la montagne, en fonction du bien le plus précieux, les sources. Là-haut, quelques Cévenols ont résisté à l'exode rural. Presque tous célibataires et paraissant taillés pour s'entendre avec cette jeunesse tombée des barricades, le vieux Denis qui change religieusement la ficelle de son pantalon pour aller au marché, ou Lucien dont la cuisine s'orne d'une plaque gravée. Tout ce qui est mécanique est satanique. Dans la vallée, chaque maison a ses rituels, théâtre, cinéma, philosophie, celle des grandes fêtes déguisées ou cet antre où l'on danse. Tout se partage alors, les travaux, les tablés, les couples, un genre de forteresse libertaire enserrée par le cercle étroit et sauvage des crêtes. Mais d'où venait la mère ? En rupture familiale, comme tout le monde ou presque. Des hippies étaient passés dans son village, en Picardie. Elle était partie avec eux. Son entraîneur d'athlétisme avait tenté de la retenir. Elle avait l'étoffe d'une championne. La mère s'en foutait. Tous ou presque vivaient de la même manière, alors. Un peu d'agriculture, un troupeau, les saisons dans les restaurants ou les chantiers. L'épicier du village effaçait les ardoises en échange de champignons ou de châtaignes. Et quand la finance plongeait, quelqu'un montait se refaire en ville. C'était facile ces années-là. En général, la mère refusait les services à qui la sollicitait. C'est ma liberté, disait-elle. Et le mot balayait tout, magnifique et terrible. Les biens, l'argent ne l'intéressait pas. Pendant les vacances, des touristes s'aventuraient sur les crêtes. Ils voulaient voir la vallée des Cunus, la curiosité locale. La mère avait accouché d'un premier fils en 1977, dans une pièce en terre battue et sans électricité. Plusieurs revendiquaient en être le père. Un jour, elle l'avait laissé à l'un d'entre eux pour partir en vadrouille avec un surfeur, puis un baroudeur espagnol. Elle pouvait tout larguer d'un moment à l'autre, sans s'embarrasser des choses ni des gens. C'était avec l'espagnol qu'elle avait eu un autre fils, puis sa fille en 1985. Elle vécut près de Madrid et aux Canaries. Elle devait être très amoureuse. On était tous très amoureux les uns des autres à l'époque, témoigne un entrepreneur. Les enseignants se souviennent d'elle, intelligente, un peu en retrait. C'était juste avant le suicide de sa meilleure amie. Après, elle se rase la tête, s'habille de sombre, abandonne le collège. La mère avait fini par revenir dans les Cévennes, sans l'homme, mais avec les petits. Ici, elle savait qu'elle pourrait s'en tirer. Les gamins de la vallée s'élevaient ensemble, enfance vagabonde sur le chemin des montagnes, poussant les portes presque toujours ouvertes, mangeant ce qu'ils y avaient. Les écoles de village n'avaient jamais connu de gosses pareils, capables de monter des spectacles, animer leur propre émission à la radio locale ou discuter avec l'impressionnant intellectuel. Une photo de ces années-là montre une adolescente souriante, assise sur un muret, cheveux noirs, belle comme sa mère. C'était la future visiteuse. C'était ses meilleures années. Elle s'habillait encore en coloré, comme mente aujourd'hui son grand frère. Les enseignants se souviennent d'elle, intelligente, un peu en retrait. C'était juste avant le suicide de sa meilleure amie. Après, elle se rase la tête, s'habille de sombre, abandonne le collège. Pas facile de remettre les choses en ordre dans cette histoire, soupire un éleveur. Mais avec le recul, il n'y a aucun doute. C'était sûrement le premier présage avant la forêt. Ce printemps-là, les restaurateurs du village ont vu la jeune fille prendre la route, chevauchant une jument noire, la mère marchant à ses côtés. « Ça va lui changer les idées, » dit-elle. Toutes les deux font les vendanges, la récolte des fruits, se parlant à peine, sauf pour l'essentiel. La fille réclame son père, finit par le rejoindre à Saint-Domingue ou à La Réunion, partout où il circule. Dans le sud de l'Espagne, il ouvre un restaurant sur la plage. Que s'est-il passé pendant une fête en 2007 ? A-t-elle été droguée ? A-t-elle été violée ? A-t-elle fait des rencontres néfastes ? Ce ne sont que des hypothèses. Ceux de la vallée ont essayé de comprendre quand ils l'ont vu revenir en panique dans les Cévennes, l'œil barré d'un bandeau noir. « Blessé ?» lui demande un ami. « Non, je ne veux plus voir que la moitié du monde. » Jamais elle n'en dira plus. Deuxième présage, après le suicide de son amie, elle a 29 ans. Les gens s'écartent, troublés. Gravement de l'aide lui est proposée, avec les mots d'ici. Qu'est-ce qui te rendrait heureuse ? Et elle, derrière son bandeau, « Moi, je voudrais savoir ce qu'il y a dans la tête des gens. » Certes, les communautés se sont dissoutes avec les années. Chacun s'est recentré chez soi. Mais aujourd'hui encore, la vallée mythique a gardé ses couleurs, sa méfiance face aux gendarmes, à certaines institutions, aux hôpitaux psychiatriques. Ça rigole autour de la table. Ici, on n'a jamais été adapté au monde. On est nombreux, ensemble, à ne pas être normaux. On partage une tisane au miel, quelques légumes arrachés au schiste dans des potagers suspendus au-dessus du vide. D'une maison à l'autre, chacun se souvient d'avoir accueilli la jeune femme au bandeau à son retour d'Espagne. On lui demande de participer aux tâches. C'est non. Elle quitte la pièce quand un autre y rentre. Parfois, quelqu'un sursaute à la cuisine ou au jardin. Ça fait des heures qu'elle se tenait dans l'ombre, à épier en silence. Souvent, elle dort le jour, se lève la nuit pour terminer les restes. Son surnom, le fantôme. Quel jour exactement s'est-elle enfuie dans les montagnes ? On ne sait plus. Ça s'est passé à l'hiver 2009. Raconte son grand frère. Pendant une de ces tempêtes traversées d'éclairs et de rivières en crue, comme on en connaît dans la région. En pleine nuit, coup de téléphone d'un voisin, sa sœur vient d'être retrouvée sur la route des Crêtes, au bord de la départementale. C'est sa nouvelle manie, marcher le long des routes, faire du stop sans but précis, puis s'allonger en travers de la chaussée. Sentir la chaleur du goudron sous son corps, s'endormir là, à côté d'un pylône. Elle s'y sent bien. Les automobilistes s'arrêtent en catastrophe. « Tu veux mourir ou quoi ?» Mais elle a déjà filé. Cette nuit-là, le grand frère l'aperçoit sur le bas-côté. Elle lui demande de retourner dans une des maisons de la vallée. Lui le sait bien, là-haut plus personne ne la supporte. Il pense à sa copine qui travaille en psychiatrie, à Mende, à 1 heure de route. Pas question d'une unité de choc avec des sangles et des piqûres, mais elle pourrait les conseiller. Il lance. On va aller à l'hôpital, je resterai avec toi. » Pas de réponse. Lui aussi s'effraie. Si je l'avais emmené, tout le monde me serait tombé dessus à ce moment-là, y compris ma mère, raconte-t-il aujourd'hui. Une formation de traducteur, la quarantaine, le grand frère vit maintenant à Paris. Il n'a jamais étudié 2 ans de suite dans le même établissement scolaire. On ne peut pas dire que nous avons été une famille modèle. Une question ne cesse pourtant de le hanter. Est-ce que j'ai eu tort? Quelque part, les conneries de ma sœur me dérangeaient. Je n'ai pas assumé et je m'en veux. Il la voit ouvrir la portière et disparaître dans le nord, dans le noir comme emporté dans la tempête. Les jours suivants, la mère le retrouve, la supplie de s'enfuir, affolée, perdue, criant à sa fille qu'on veut l'interner en psychiatrie, que les gendarmes sont à ses trousses. De leur côté, quelques-uns, comme la conseillère Michèle Manoa, pensent qu'il faudrait alors tenter des soins. Mais c'est fini, la fille est montée déjà dans les bois. Au début, personne ne s'en rend compte. Pourtant, elle ne sait pas braconner, ni pêcher la truite à main nue, ou reconnaître les baies comestibles. La ronde de son enfance devient son terrain de chasse. Les lieux familiers des amis, aux portes toujours ouvertes. À l'aube, ou à la pleine lune, elle se faufile comme un chat dans les cuisines soucieuses de ne rien déranger et effaçant ses traces. Elle évite les fermes trop proches des villages et de la route, celles avec des chiens ou des inconnus pourraient la dénoncer. À force de voir les provisions se volatiliser, un petit groupe finit par comprendre. La visiteuse ne déplaît pas au début. Elle intéresse. Sa fuite suscite même une certaine admiration chez ceux de la vallée. Ils y lisent une rébellion contre l'enfermement, un acte de liberté. Elle est mieux là qu'à l'asile, disait-on. C'est son choix. Elle a le droit de vivre comme ça. Certains lui laissent des paniers dans la montagne, d'autres posent des mets sur la table avec un mot. « Ceci est pour toi. » Elle se méfie. Réponse sans faute d'orthographe. « Est-ce que vous avez mis de la drogue dedans ?» À force, ils connaissent ses préférences, des goûts, de petites gosses, la boîte de thon, mais pas le foie de morue, les pots de Nutella, mais pas le chocolat noir, le beurre de cacahuète à la folie et les conserves maison. Elle aime surtout le foie gras. Elle ne touche pas à l'école, à l'alcool, ou plutôt elle n'y touche plus. On laisse traîner de l'argent et des bijoux, exprès pour voir. Elle n'y touche même pas. Partant d'orage ou pendant le gros de l'hiver, les résidences secondaires lui servent de refuge. Parfois, les occupants arrivent à l'improviste. On l'a surprise dans un lit ou sur l'ordinateur à regarder le film « Un entretien avec le vampire ». En un éclair, elle détale avec des yeux de bête traquée. Une fois, un ami s'est lancé à ses trousses avant de s'arrêter net. « Mais si je l'attrape, je fais quoi ?» Jamais il n'aurait envisagé qu'elle tiendrait si longtemps dehors. Les années et la montagne ont fini par la transformer. « À l'ensauvager », disent certains. Le cerf et le hibou lui parlent. Parfois, un promeneur découvre un matelas de feuilles et de chiffons dans l'échancrure d'un rocher, une cache de nourriture à demi enterrée, un campement avec des ânes à la lisière d'un pré à l'herbe rase. On l'a vu jaillir d'un trou d'eau glaciale avec un visage ébloui. Et maintenant, elle rentre dans les maisons sans précaution, ouvre les armoires, choisit des tenues, comme dans une boutique. Elle a du goût. Elle prend surtout les habits les plus neufs, les plus jolis, mais elle ne prend jamais de chaussures. constate une amie de sa mère. Elle a retrouvé certains de ses vêtements accrochés en grappe à une ficelle dans le bouillonnement d'un torrent, comme dans le tambour d'une machine à laver. D'autres séchaient aux branches d'un arbre à la manière d'un fil à linge. La visiteuse vide les congélateurs, embarque les couettes, les couvertures. En repartant, elle laisse tout ouvert et parfois le four allumé. On est toujours à se demander ce qui va se passer quand on part de chez soi. Sur les tables, les mots pour elle se font plus pressants. « Tu es la bienvenue. Laisse-nous au moins les duvets. C'est l'hiver. Fais attention avec le feu. » Elle est devenue l'obsession de la vallée. Dans ces bâtisses où l'on se plaisait à vivre sans serrure, des verrous ont été posés, des volets, des doubles vitrages, des barrières électriques, des panneaux maison piégée. Alors elle casse pour rentrer, ciblant les lieux les uns après les autres, avec des fixations chez certains, où elle retourne inlassablement. À l'intérieur, elle refait la maison à sa manière, objets déplacés, mise en scène. Ici, les yeux d'une marionnette ont été arrachés. Là, de grands masques décrochés des murs ou cachés sous le lit. Désormais, chaque passage est signé, comme si elle avait peur qu'on finisse par l'oublier. Depuis 5 ou 6 ans, la visiteuse s'empare des choses intimes. La photo d'un chien ou le doudou d'un enfant. Des gens commencent à se sentir blessés, d'autres à avoir la trouille. La mère les écoute, ne sachant que répondre, partagée entre la gêne et le soulagement. À chaque effraction signalée, elle pense « Au moins, je sais que ma fille est vivante. » Certains y voient une duplicité. Dans la montagne, elle place des écriteaux pour signaler les maisons en colère. On l'a entendu crier vers les hautes crêtes. « Fais attention, arrête de voler, les gendarmes vont venir te prendre. » L'autre jour, sa fille lui a parlé de dos, caché derrière un rocher. « Si je redescends, est-ce que je vais être obligé d'aimer les gens ?» Dans le silence des bois, sa voix sonnait, pointue, au perché, redevenue celle d'une petite fille de 5 ans. Les premiers à parler publiquement dans la vallée ont été ses amis, trentenaires comme elle, ses anciens copains de collège ou de sortie. L'un commence. « Il faut que les choses se disent. On va me détester pour ça. Mais est-ce qu'on a protégé quelqu'un et ses choix ? Ou au contraire, l'a-t-on laissé dégringoler ?» Leur enfance commune remonte, souvenir par vagues où se mélangent les instants magiques et les autres. Être libre était une injonction. On était laissé à nous-mêmes, parfois sans protection. Assume, on disait. Dans la vallée, des jeunes gens ont recommencé à venir s'installer. Une autre génération, une autre culture, de nouveaux néo-ruraux, disait-on. Vivant parfois de la terre, mais pas toujours. De retour, un soir chez eux, un couple a retrouvé la maison saccagée, la table couverte de récipients, tout étrangement rempli de lait. Ils croient à la vengeance d'un collègue, une manière de leur signifier que leur arrivée n'est pas souhaitée. Ils se renseignent. Alors on leur parle d'elle, la visiteuse. Plusieurs légendes circulent. Un être aux paupières cousues errant dans la montagne, ou alors une naïade vêtue de ses seuls cheveux blonds. La visiteuse revient chez eux une fois, deux fois, 10 fois. Ils repèrent les postes d'observation d'où elles surveillent leurs faits et gestes. L'épouse n'ose plus rester seule. Lui frôle la dépression. Il bricole une caméra devant la porte. On va enfin voir à quoi elle ressemble. Sur l'écran apparaît une jeune femme en jeans et en sweatshirt, bien plantée, toute propre, le visage encadré de deux tresses noires. En 2018 et 2019, des réunions ont été organisées avec les mairies, l'état-major local de la gendarmerie, Chloé de Melenaer, la sous-préfète de Florac. Cela avait déjà été le cas quelques années plus tôt, mais en vain. Ceux de la vallée considéraient alors comme une soumission de laisser les institutions s'en mêler. Ils répétaient « On ne va pas courber les chines, on gère nous-mêmes », disaient-ils. Maintenant, les victimes sont venues à la réunion. Elles virent vite à la séance de psychanalyse collective, selon des participants. « Je me sens devenir comme les beaufs que l'on fuyait dans notre jeunesse », lance l'un. Un homme explique qu'il ne ressentirait rien face à la mort d'un être humain pour la première fois de sa vie. Il est non-violent, il se fait horreur à lui-même. Quelques-uns prennent des calmants. Une femme a déménagé. Un nouvel arrivant s'énerve. Comment peut-on laisser une femme avec une telle souffrance? Les 68ards vivent dans leur roman. Ça raconte la vallée, leur refus du monde. Une quarantaine de plaintes ont été déposées. Le parquet de Mende les a classées sans suite le 18 juin 2018. L'enquête n'ayant pas permis d'identifier l'auteur des infractions, la sous-préfète Et quoi de neuf, une association d'insertion locale chargée du dossier, ont refusé de s'exprimer. Aucune avancée n'a été constatée depuis. Ici, certains ont revu « L'enfant sauvage », le film de François Truffaut de 1970, où un médecin ramène dans la société des hommes un garçon trouvé dans la forêt. L'époque est autre, bien sûr, et l'histoire s'écrit maintenant à l'envers. Les enfants sauvages d'aujourd'hui sont ceux qui ont fui la civilisation, pas ceux qui en avaient été exclus. Il n'empêche. Certains dans la vallée y voient une solution. Lancer un appel à des chercheurs capables de se passionner pour la visiteuse. Comme dans le film, ils effectueraient un patient travail de terrain pour essayer de la faire descendre de la montagne. Et ça, pas à pas. Plusieurs hébergements ont déjà été proposés. Avant la forêt, la visiteuse aimait se glisser dans une ferme au-dessus du village, chez une vieille famille cévenole. Elle entrait sans s'annoncer, donnait volontiers un coup de main. Les parents l'appréciaient, ils la trouvaient polie et courageuse. Ils n'étaient pas si nombreux, leur semblait-il, les jeunes gens de son âge capables de travailler aussi dur qu'elle. Puis assise dans la cuisine, elle leur parlait de ses rêves. Elle ne savait vraiment pas comment dire, ou plutôt si. Elle souhaitait un copain, une maison, des enfants. En servant du café, la mère de famille lui avait demandé « Tu veux dire une vie comme nous tous ?» Ici se termine ce superbe récit. Je vous remercie de m'avoir écouté attentivement et je vous souhaite une bonne nuit. Il faut écouter ça avant de dormir. Au revoir.